VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériec et Eric Manirakiza avec vous à Washington. Bienvenue dans cette édition du lundi 29 août 2016. Au sommaire ce soir.
Manque de transparence de la présidentielle au Gabon, conclusion de l'observation de l'Union européenne. Jinping a appelé le peuple à défendre par tous les moyens sa victoire autoproclamée.
Sommet de Nairobi, le Japon annonce un investissement de 30 milliards de dollars en Afrique sur les 3 prochaines années.
Attentat le plus sanglant au Yémen, au moins 70 morts dans un centre de recrutement militaire à Aden.
Présidentielle américaine, ne manquez pas notre segment habituel.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Au Gabon, les résultats de l'élection présidentielle se font toujours attendre. L'opposant Jinping a fait une nouvelle sortie aujourd'hui pour redire qu'il est le vainqueur, alors que les résultats sont attendus d'ici à demain. Le point avec notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall.
Oui, Libreville et le Gabon sont toujours sous haute tension. Jinping, principal candidat de l'opposition, s'est déjà autoproclamé hier vainqueur du scrutin. Il a jugé bon de tenir ce lundi un autre point de presse pour répéter qu'il est le vainqueur, en précisant qu'il ne s'est pas autoproclamé président. Kazimir Oyemba et Nzuba Tsama, ses alliés de la dernière minute, l'appuient de la tête, mais refuse d'appeler les populations sorties dans les rues. Alain-Claude Bili Binze, porte-parole d'Ali Bongo Odimba, assure lui de son côté que son candidat a une avance irréversible sur son rival, mais aucun camp pour le moment n'avance de chiffres. On le saura demain avec la proclamation des premiers résultats provisoires par le ministère de l'Intérieur. Depuis Libreville, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Et nous reviendrons sur la présidentielle gabonaise en partie magazine.
Dialogue politique en République démocratique du Congo. Le rassemblement de l'opposition maintient son boycott de ses assises qui débutent le 1er septembre prochain. Joseph Olengakoy, membre de la plateforme que dirige Étienne Tshisekedi au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les Congolais pensent que toujours notre bonheur viendra d'ailleurs. Mais cette fois-ci, nous allons prouver au monde que le bonheur du Congo viendra du sol congolais et par les Congolais eux-mêmes.
Concrètement,
nous allons nous assumer et nous allons montrer au monde que nous sommes un peuple éveillé et qui connaît la direction de notre pays.
Je dis, vous allez au dialogue.
Le rassemblement n'est pas engagé dans ça, ce n'est même pas un dialogue. C'est un forum Kondjo Kabila et avec tous les agglomérats de James Kabahare et puis avec les caméras là-dedans.
Joseph Olengakoy de la plateforme de l'opposition en RDC.
Et RDC toujours, un rassemblement de l'opposition a mal tourné à Lubumbashi. D'après l'AFP, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène des centaines de jeunes venus dénoncer la convocation à partir du 1er septembre du dialogue national destiné à préparer les élections. Les manifestants ont réagi en jetant des pierres sur les policiers et ont érigé des barricades.
Et dans l'Est, Morgane, 2 personnes ont été tuées la nuit passée dans une attaque contre le village de Chuto, majoritairement habité par des Hutus congolais. Les autorités qui parlent de violence à caractère ethnique attribuent l'attaque à un groupe d'autodéfense.
Soudan du Sud, 6 soldats ont été jugés par une cour martiale pour des crimes qu'ils sont accusés d'avoir commis au cours des combats meurtriers de juillet entre des partisans du président Salva Kiir et de l'ancien vice-président Riek Machar à Djouba. C'est ce qu'indiquait un porte-parole de l'armée.
La bataille pour Sirte se poursuit en Libye. Les forces du gouvernement d'Union nationale assiégeaient aujourd'hui les derniers combattants d'un groupe État islamique dans leur ex-bastion. Les djihadistes sont désormais acculés dans un secteur d'au moins de 2 km carrés dans la ville qu'ils avaient conquise en juin 2015, affirmaient les autorités.
Tunisie, le gouvernement d'union de Youssef Chahed a pris officiellement ses fonctions. Le successeur d'Habib Essid devra notamment redresser l'économie du pays 5 ans après la révolution.
Et c'est dans ce contexte que 3 soldats tunisiens sont morts ce matin dans l'explosion de mines. Des sources sécuritaires citées par l'AFP indiquent que l'incident s'est produit durant une opération Mont Samama, un des principaux maquis djihadistes du pays.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Carnage au Yémen. Un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique a fait au moins 70 morts et 98 blessés à Aden. Le kamikaze a visé de jeunes recrues de l'armée enrôlées par le gouvernement en exil en Arabie Saoudite. Bagassi Koura.
L'explosion s'est produite dans la cour de l'école Sanafir du quartier Muammar Kadhafi, du nom de l'ancien dirigeant libyen. Le kamikaze a profité de l'entrée d'une camionnette de livraison pour lancer son véhicule contre les recrues rassemblées dans la cour. Selon un responsable de sécurité cité par l'AFP, la déflagration a provoqué l'effondrement du toit d'une salle de classe sur de nombreuses recrues. L'agence AMAC, organe de propagande du groupe djihadiste, a vite revendiqué l'attaque. Cet attentat, qui intervient sur fond de blocage du processus de paix entre rebelles et gouvernement, est le plus sanglant à endeuiller la ville d'Aden, déclarée capitale provisoire du Yémen, depuis son retour dans le giron du gouvernement en juillet 2015. Ceci illustre les difficultés qu'ont les autorités à rétablir l'ordre à Aden, en dépit des diverses mesures et de nombreux plans pour sécuriser la ville. Pour résoudre le conflit, le secrétaire d'État américain John Kerry a proposé jeudi dernier la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Bagassi Koura. La Turquie a prévenu aujourd'hui qu'elle continuerait de frapper les combattants kurdes dans le nord de la Syrie tant qu'ils n'auraient pas reculé à l'est de l'Euphrate. Mais les États-Unis ont jugé ces affrontements inacceptables. Ils mettent aux prises deux alliés des États-Unis dans la guerre contre le groupe État islamique et posent un sérieux dilemme diplomatique à Washington.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé à Dhaka qu'il existait des preuves d'un lien entre les auteurs des récents attentats sanglants au Bangladesh et le groupe État islamique, contrairement à ce qu'avancent les autorités bangladaises. Les précisions de Tatiana Mousseau.
L'EI avait revendiqué la prise d'otages sanglante dans un café de la capitale qui a fait le 1er juillet 22 morts, dont 18 étrangers. Mais les autorités du Bangladesh ne cessent de nier la présence de tout groupe djihadiste international dans le pays et rejettent la responsabilité des récents attentats sur le groupe islamiste local Jamaat-e-Tul Mujahideen Bangladesh. Le secrétaire d'État américain a défendu la première ministre accusée par l'opposition de diaboliser sa propre opposition. John Kerry a répété que les États-Unis étaient les alliés de Dhaka dans sa lutte contre les islamistes combattants. Les questions de sécurité et de coopération dans le renseignement ont dominé la journée de visite du secrétaire d'État. Mais celui-ci a souligné l'importance de la défense de la démocratie dans la lutte contre le terrorisme. Le Bangladesh a en outre été secoué par des attaques meurtrières commises par des extrémistes. Environ 80 personnes, membres de minorités religieuses, étrangers, intellectuels et défenseurs de la laïcité, ont été tués à coups de machette depuis 2013.
Tatiana Mosso. La police pakistanaise a arrêté 106 étudiants afghans dans une école coranique de Quetta, ville instable du sud-ouest. Nombre de ces établissements sont considérés comme un terreau pour l'extrémisme. Ces institutions fournissent une éducation rudimentaire à des centaines de milliers d'enfants, mais sans contrôle sur le contenu pédagogique.
Les Palestiniens se sont dit prêts aujourd'hui à prendre part à toute initiative de relance de l'effort de paix avec les Israéliens, tout en répétant leur attachement à l'idée française de conférence internationale, alors que les spéculations sur une médiation russe vont bon train. La presse israélienne fait état d'efforts en cours sous l'égide du président russe Vladimir Poutine pour une rencontre entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'automne à Moscou.
Le gouvernement français a ouvert aujourd'hui des discussions sur l'islam de France en espérant mieux ancrer dans les valeurs de la République. La deuxième religion du pays est au cœur de débats fiévreux dans un pays ciblé par les djihadistes.
Et en Belgique, 5 personnes ont été arrêtées ce matin après l'incendie criminel dans la nuit du principal centre scientifique de la justice à Bruxelles. L'acte aurait pu viser à faire disparaître des preuves, selon le parquet de la capitale belge.
Et dans son ultime intervention de la dernière chance devant le Sénat, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a dénoncé un coup d'État, se disant victime d'un procès injuste et arbitraire avant sa probable éviction mardi ou mercredi. Sa destitution va marquer un point final à 13 ans de règne de la gauche dans le plus grand pays d'Amérique latine.
Les autorités chinoises ont fermé de nombreuses usines et imposé des vacances obligatoires aux travailleurs en amont du sommet du G20 qui se tiendra les 4 et 5 septembre à Hangzhou, dans l'est de la Chine, afin de réduire la pollution et de s'assurer d'un ciel bleu.
En Italie, des experts devaient commencer aujourd'hui à évaluer la viabilité des écoles dans la zone frappée par le séisme dans le centre du pays en prévision de la rentrée scolaire, tandis que le gouvernement cherche des solutions innovantes pour loger rapidement les sinistrés.
Des experts russes et allemands sont arrivés aujourd'hui au Caire pour examiner les débris d'un avion de la compagnie russe Metrojet qui s'est écrasé en octobre 2015 dans le Sinaï après son décollage de la station balnéaire de Sharm el-Cheikh. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minuteco avec Claire Morin-Gibourg.
Fin de TICAD 6, la sixième conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, qui s'est tenue ce week-end à Nairobi, au Kenya. L'un des principaux acteurs de cette conférence, la BAD, la Banque africaine de développement, a signé plusieurs accords de coopération avec des partenaires japonais, et notamment une initiative de 3 milliards de dollars pour stimuler la croissance du secteur privé en Afrique. Le gouvernement congolais lance un nouveau programme d'action prioritaire de l'agriculture 2016-2019 d'un montant de 960 milliards de francs CFA. Un programme qui vise dans un premier temps la sécurité alimentaire, puis l'autosuffisance alimentaire. Le programme sera financé par le secteur privé, l'État et les partenaires techniques, a indiqué le ministère congolais de l'Agriculture. Plusieurs priorités ont été définies, comme la mécanisation de l'agriculture, l'irrigation dans les parties du pays où l'eau est difficile d'accès et l'encadrement des agriculteurs, sans oublier la conservation des produits agricoles. Les inégalités entre hommes et femmes coûtent chaque année quelque 95 milliards de dollars à l'Afrique subsaharienne, c'est ce qu'a affirmé hier le PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement souhaite que les pays africains prennent des mesures afin de bénéficier du potentiel des femmes.
Plein feu sur les stades, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
On commence en football, le Sénégal.
Début du stage des Lions de la Teranga en vue de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le duel entre les Lions et les Warriors est prévu ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, la correspondance d'Amdine Sy.
Le compte à rebours en direction de l'ultime journée des éliminatoires de la CAN 2017 a démarré pour l'équipe nationale du Sénégal qui doit affronter son homologue de la Zambie samedi prochain au stade Léopold Sédar Senghor. En effet, l'hôtel Fleur de Lys qui sert de tanière au Lyon commence à accueillir les pensionnaires de la sélection nationale. D'ailleurs, sur les 23 joueurs sélectionnés, 15 sont déjà sur place. Il s'agit des joueurs qui ont joué ce week-end avec leur club respectif. Les autres sont attendu ce soir, mais Aliou Cissé risque de se passer de certains cadres comme Karamboute, Moussa Konaté, Kalidou Koulibaly et Diao Baldé Keïta qui sont en instance de transfert, mais cela n'ébranle pas le coach de Lyon qui s'attendait à jouer un match dans un contexte difficile. C'était Amédine Sy depuis Dakar pour VOA Afrique.
Parlons Supercoupe. D'abord en RDC, le sacre des corbeaux.
Oui, le TP Mazembe a remporté la Supercoupe de la RDC hier dimanche à Kindu en battant le FC Renaissance de Kinshasa 3-1. Un triplé d'Adama Traoré qui a permis donc aux corbeaux de s'imposer pour la troisième fois dans cette épreuve après 2013 et 2014.
Et au Togo, c'est le Semassi de Sokodé qui remporte la Supercoupe.
Oui, champion en titre depuis 2014, le Semassi de Sokodé a remporté ce dimanche à Lomé cette Supercoupe togolaise en battant US Koroki de Tchamba au tir au but 4-3. Les équipes étaient à égalité, un but partout à la fin de la prolongation. Ce match annonce le début du championnat de première division prévu le 1er septembre après environ 2 ans d'interruption pour raison de crise au sein de la Fédération togolaise de football.
Merci Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Diriek et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, le Gabon.
Exactement, Morgane. Avis partagé des observateurs de la présidentielle du 27 août, c'était dimanche. Ceux de l'Union européenne ont fait état d'un manque de transparence du processus électoral gabonais. Le point avec Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville.
L'opposant Jinping en remet une couche. Après sa déclaration d'hier où il clamait sa victoire, il a tenu ce lundi un nouveau point de presse pour dire qu'il est l'élu des Gabonais avec une légère nuance car il affirme ne pas s'auto-proclamer président.
Hier, j'ai rencontré les ambassadeurs de France et des États-Unis en poste dans notre pays. J'ai informé ces autorités diplomatiques de ce que, à l'issue du scrutin 27 août 2016, sur la base de la quasi-totalité des procès-verbaux dûment établis et signés dans les bureaux de vote par toutes les parties présentes, nous sommes en mesure d'affirmer que je suis le vainqueur du scrutin présidentiel organisé dans notre pays. Ces propos ne constituent en rien une autoproclamation, contrairement à ce que soutiennent les faucons du régime.
Aucun camp n'avance de chiffres. Le président Ali Bongo Ondimba a réitéré aujourd'hui devant les observateurs internationaux toute sa confiance et son optimisme. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a donné une sorte de satisfecit au processus en relevant cependant quelques irrégularités. Maria Gabriel, chef de la mission d'observation de l'Union européenne.
Les conditions de vote ont été jugées satisfaisantes sur la base de l'absence de tensions, d'agitation ou d'activités de campagne, garantissant dans les mêmes proportions le secret du vote. Les défaillances au niveau du contrôle de l'encre indélébile, dans 17% des bureaux de vote observés, la mission a noté des cas de refus de droit de vote en raison de l'absence de documents d'identification valables. Que le dépouillement dans les bureaux de vote était bien conduit, maintenant j'encourage les autorités gabonaises à publier les résultats bureau de vote par bureau de vote.
Du côté de la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, c'est le silence radio, car il faut compiler tous les procès-verbaux et les transmettre au ministère de l'Intérieur, qui promet de publier demain mardi les premiers résultats provisoires. En attendant, le pays est sous haute tension parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Depuis Libreville, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Sud Kivu, la première édition du festival Umoja Grand Lac se poursuit depuis le 27 août. Ce cadre d'échanges culturels et de dialogue entre jeunes des pays de la sous-région des Grands Lacs est organisé par l'association des jeunes The Future for All. Précision avec notre correspondant sur place, Ernest Mouhero.
C'est dans ces beaux cadres du collège Alpha Diri à Bukavu que se déroule le festival Umoja Grand Lac, un festival qui connaît la participation des artistes venus du Rwanda, du Burundi, de Goma, de Bukavu, de Kinshasa et même de Beni pour ensemble témoigner artistiquement les soucis de la jeunesse de s'unir pour la paix et la cohabitation pacifique dans la sous-région. Vita, vime, tout Pour le président de ces festivals, Emmanuel Chocano Cagnori, les jeunes de la région des Grands Lacs doivent comprendre que leur différence est une force pour bâtir la paix. Il revient sur les motivations de ces festivals.
Vous savez, la région des Grands Lacs, c'est une région qui a traversé tant de problèmes. Les génocides au Rwanda, une mutinerie au Burundi, la guerre au Congo. On a trouvé que ces choses sont restées dans la population. Nous, on a pensé que si on réunissait les jeunes afin de s'attaquer à ça à travers les dialogues, afin que dans l'avenir, il n'y ait plus ces choses-là.
Pour Thomas Lusango, un des artistes de Bukavu invités, il est temps que les divisions cessent dans la région des Grands Lacs africains et que les présidents respectent les constitutions de leur pays.
Nous ne voulons plus que les Grands Lacs soient divisés par des guerres ethniques, marginalisation. Nous voulons être ensemble. Aux présidents, surtout aux Africains, et surtout les présidents des Grands Lacs, ça mâchait les mots. Je dirais qu'il ne faut pas s'éterniser au pouvoir. Lorsque votre mandat est fini, ok, laissez aux autres de continuer. Sinon, si vous vous éternisez au pouvoir, il y aura des indignés. Aïe Mamadi,
Koliami Djabi. Selon l'association des jeunes de Future for All qui organise ce festival du 27 août au 1er septembre 2016, les festivaliers suivent entre autres des concerts des artistes, des projections des films produits par les cinéastes de la région, des conférences sur l'exploitation commune des richesses transfrontalières et un accent particulier placé sur le rôle des jeunes pour des élections démocratiques. Emmanuel Chocano donne les messages forts du festival.
On ne veut plus de guerre, on veut la paix et nous savons que la paix c'est quelque chose que nous devons arracher. C'est quelque chose que nous devons inculquer surtout dans le jeune parce qu'ils sont le plus manipulés. Ils sont le grand lac d'aujourd'hui et de demain. Nous avons une région que nous devons protéger. Il y aura élection Miss Grand Lac, des concerts en l'expo-vente artistique de tout le pays qui sont invités. Et à travers ce festival, nous savons que Bukavu va rayonner. Nous sommes tous un et cette unité doit être visible.
Thomas Lusango explique sa chanson Mijabi.
C'est une chanson chantée en Kinyarwanda, en Kirundi et en Swahili, où j'ai dit que la guerre nous amène que des divisions et ça nous amène que des querelles. Quoi. Des fois, on se demande de ce qu'on va manger, et où est-ce qu'on va passer la nuit, parce que c'est l'insécurité. Il faut que ça cesse. On n'a plus besoin de la guerre. Aïe, Mamadi,
Kolia Mijabi. Ernest Mouiro, Bukavu, VOA Afrique.
Voilà, ça danse à la congolaise. L'Afrique va bénéficier d'un investissement japonais de 30 milliards de dollars américains sur les trois prochaines années, dont 10 milliards dans le développement des infrastructures. Shinzo Abe, premier ministre japonais, l'a annoncé lors de la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, tenue à Nairobi. Un sommet de deux jours qui a vu la participation d'une trentaine de chefs d'État pour analyse. Jacques Aristide a joint l'économiste Amadou Cissé du groupe de la Banque mondiale.
Une très grande importance, surtout à cause du grand retard sur les infrastructures, au titre des infrastructures en Afrique, notamment sur le plan de l'énergie, sur le plan de la maîtrise de l'eau et puis sur le plan routier. Ça revêt une très grande importance dans la mesure où le développement des infrastructures est une des préconditions du développement économique. Si cela se traduit concrètement, oui, ça va améliorer les conditions de vie matérielle des populations, ça va améliorer le fonctionnement des États, ça va donner un impetus aux économies africaines.
Les échanges commerciaux entre le Japon et l'Afrique s'élevaient à 24 milliards de dollars l'an dernier, bien moins que les 179 milliards de dollars de la Chine. Ce nouvel engagement du Japon est-il un moyen pour Tokyo de consolider sa position sur le marché africain face à l'offre chinoise notamment?
Cela est un signal positif. Cependant, comme vous l'avez dit, c'est bien loin derrière les montants de la Chine qui sont très très importants. Mais cela étant dit, ça va dans la même direction. Disons, la part de l'Afrique dans le commerce mondial reste très faible. Cet engagement du Japon va dans la bonne direction. Il est difficile de dire autre chose que de noter son côté positif parce que le développement des échanges, c'est quelque chose qui est très, très favorable au développement économique. Et le Japon aussi représente un symbole. C'est le pays qui a mis en motion l'ère Meiji, les transformations du Japon pour rattraper son retard par rapport à l'Occident. Il l'a rattrapé et il est un des géants économiques mondiaux aujourd'hui. Donc, développer les échanges avec l'Afrique entraîne aussi ce gain symbolique.
Certains diraient que c'est un peu la ruée vers l'Afrique, la Chine, les États-Unis, l'Europe et maintenant le Japon. Cela ne peut qu'être une bonne chose pour l'Afrique, n'est-ce pas?
Absolument. Et de manière générale, l'Afrique s'inscrit vraiment dans le carnet de visite de tous les pays développés dans la mesure où c'est l'une des dernières frontières de grandes réserves naturelles, minières et autres dans le monde. Et sans conteste, la compétition économique se jouera beaucoup en Afrique ces prochaines années.
L'économiste Amadou Cissé était en ligne de Washington au téléphone de Jacques Aristide à New York.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Présidentielle américaine 2016, c'est mercredi que le candidat républicain Donald Trump prononcera son discours très attendu sur l'immigration. En attendant, il lance sa plus importante campagne télévisée cette semaine. Son adversaire, démocrate Hillary Clinton, présente un ambitieux plan de lutte contre les maladies mentales. On fait le point avec vous, Timothée Donangmaï.
Donald Trump compte faire diffuser cette semaine ses spots télévisés dans les États de l'Ohio, de Pennsylvanie, de la Caroline du Nord, la Floride et la Virginie, entre autres. Il prévoit d'investir jusqu'à 10 millions de dollars dans cette opération. Ces achats de temps d'antenne s'ajoutent à une campagne audiovisuelle lancée en début de mois et dotée d'une enveloppe de 5 millions de dollars. Selon Jason Miller, conseiller en communication de Trump, le message positif du candidat républicain portant sur les opportunités économiques est en train d'avoir un impact au plan national et dans les États clés, et les sondages s'orientent dans une bonne direction. Donald Trump, dont la stratégie médiatique consistait jusqu'ici à se contenter de l'attention générée par ses propos controversés, est à la traîne en termes de fonds électoraux. Dans le camp démocrate, Mme Hillary Clinton s'apprête à injecter 9,2 millions de dollars dans sa campagne médiatique cette semaine. Depuis son investiture comme candidate, elle a déjà dépensé plus de 77 millions de dollars dans les messages télé et radio visant les électeurs des États clés, selon la compagnie spécialisée Kantar Media.
Madame Clinton présente cette semaine son plan de lutte contre les maladies mentales, Timothée.
Des chiffres du gouvernement fédéral datant de 2014 font état de 43,6 millions de personnes ayant connu des problèmes mentaux l'année précédente et de près de 10 millions d'adultes souffrant de sérieuses maladies mentales. Parmi ces personnes figurent de nombreux soldats rentrés des opérations militaires en Irak et en Afghanistan. Le plan de la candidate démocrate souligne la nécessité d'une meilleure intégration des soins mentaux dans le système de santé des États-Unis. Elle entend orienter ses efforts vers la détection précoce et la prévention des maladies mentales et compte lancer une initiative nationale de prévention du suicide. La candidate démocrate avait annoncé un peu plus tôt cette année, en compagnie de son adversaire des primaires, le sénateur Bernie Sanders, une augmentation du financement des centres de santé communautaires. Madame Clinton se propose d'organiser une conférence sur la santé mentale à la Maison-Blanche dès la première année de sa présidence, au cas où elle serait élue à la présidentielle de novembre.
Timothée Donangmaï, merci.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnou a dirigé la mise en onde. Présentation, Morgane Guiriec et Eric Manilakitz.
avec l'assistance technique de Jogi. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 700 000. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.